L'heure des informations avec vous, Ludovic Piétenu, bonsoir.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. 4 attaques en l'espace d'une semaine en Allemagne. L'explosion d'hier soir en Bavière est revendiquée cet après-midi par l'État islamique. Le réfugié syrien de 27 ans s'est filmé dans cette vidéo retrouvée sur son téléphone portable. Il prête allégeance à l'organisation terroriste et annonce une vengeance contre les Allemands. 10 jours après le coup d'État raté en Turquie, la répression s'accentue. Plus de 60 000 personnes arrêtées. Des journalistes, des magistrats, des policiers, des militaires, des enseignants, des ambassadeurs, des employés d'entreprises publiques. Une répression prévue de longue date, nous dira Mourat Erpouyan, un enseignant à l'INALCO. Le rachat d'une société pionnière de l'Internet, créée en 1994, Yahoo, est avalé par Verizon, géant des télécoms américains, pour seulement quelques milliards de dollars. Et puis après ce journal, on restera aux États-Unis avec le sujet du grain à moudre d'été, Raphaël Bourgois.
Oui, on se penchera sur l'ouverture de la convention démocrate pour se demander si l'Amérique arrive dans ses élections de 2016 plus divisée que jamais, Ludovic.
L'organisation terroriste État islamique affirme cet après-midi qu'il s'agissait de l'un de ses soldats au lendemain de l'explosion d'Ansbach en Allemagne qui a fait 15 blessés. Le ministre bavarois de l'Intérieur évoque l'existence d'une vidéo retrouvée sur le portable de l'auteur, un réfugié syrien de 27 ans débouté de sa demande d'asile il y a un an. Dans cette vidéo, il prête allégeance à l'État islamique, brandit la menace d'un attentat, un acte de revanche, dit-il, contre les Allemands. Hier soir a donc été le 4e acte de violence en Allemagne en l'espace d'une semaine, dont 3 en Bavière. Mais les politiques ne cèdent pas à la polémique, Pascal Thibault.
Des journées de l'horreur. Pour le patron de la Bavière, le conservateur Horst Seehofer, les derniers jours avec 3 attaques ou incidents dans sa région ont constitué un choc. Dans un pays largement épargné par les attaques de ce genre dans le passé, ces événements à répétition constituent naturellement une secousse pour le pays. Avant l'attaque de Munich, un sondage vendredi matin montrait que 77% des Allemands craignaient des attentats dans un avenir proche pour leur pays. Malgré tout, 6 personnes sur 10 faisaient confiance à la police pour éviter le pire. Mais l'heure n'est pas à la surenchère et aux polémiques. Le ministre fédéral de l'Intérieur, Thomas de Maizière, a souligné que les 2 dernières personnes impliquées dans des attaques hier étaient arrivées avant la grande vague de réfugiés de l'an dernier. Il rejette les amalgames entre terrorisme et migrants et demande à ses concitoyens de faire confiance à l'état de droit et de ne pas renoncer à leur mode de vie. Les seuls à polémiquer sont les populistes de droite de l'Alternative pour l'Allemagne, qui tirent à boulets rouges contre la politique migratoire d'Angela Merkel, accusée de tous les maux. Nul doute que l'AFD veut exploiter cette vague de violence pour rebondir dans les sondages avant 2 élections régionales test en septembre. Le reste de la classe politique formule des propositions diverses pour éviter à l'avenir de telles attaques, mais évite la surenchère. Certains proposent un contrôle plus strict des sites internet permettant de se procurer des armes, des sanctions contre les migrants criminels qu'il faudrait reconduire à la frontière, ou encore de nouvelles compétences pour les services de sécurité, voire pour l'armée, ce qui reste un tabou en Allemagne.
Le correspondant de RFI en Allemagne, Pascal Thibault. Pour l'heure, la seule annonce politique faite aujourd'hui par le ministre fédéral de l'Intérieur est le renforcement de la présence policière dans les lieux politiques, principalement les aéroports et les gares. Aux États-Unis, au petit matin, cette fusillade aux abords d'une boîte de nuit en Floride, ce n'est pas sans rappeler évidemment la tuerie d'Orlando dans le même état américain au mois de juin, un bilan de 49 victimes. Ce matin, dans une moindre mesure, puisque le tireur a causé la mort de 2 personnes, 2 adolescents ainsi qu'une quinzaine de blessés, ça s'est passé à Fort Myers. Aucun motif ne ressort des premières investigations. Toujours aux États-Unis, après le sacre de Donald Trump par les républicains, place à la convention démocrate à Philadelphie qui va propulser officiellement Hillary Clinton comme candidate à la Maison Blanche. Cela commence vers 22h heure française et on attend notamment un peu plus tard dans la nuit le discours de Bernie Sanders, le rival défait. Ce sera le symbole de l'unité. Les démocrates espèrent jouer le contraste, disent-ils, avec la convention républicaine et le message sombre et de division, explique un responsable de la campagne Clinton. Mais l'image d'unité est déjà quelque peu fissurée puisque la patronne des démocrates va démissionner après la révélation ce week-end de milliers de messages échangés entre responsables du parti, des messages au ton méprisant, méfiant à l'égard de Bernie Sanders, dont les partisans ont déjà manifesté hier et annoncé qu'il battrait le pavé toute la semaine à Philadelphie. 10 jours après le coup d'État raté en Turquie contre Erdogan, la répression est massive. Je vous le disais dans les titres, plus de 60 000 arrestations. On parlait ce midi d'un mandat d'arrêt lancé ce matin contre 42 journalistes. Après, des magistrats, des policiers, des militaires, des enseignants, des ambassadeurs vont également être rappelés, jusqu'à la compagnie nationale Turkish Airlines qui licencie 211 de ses employés. La compagnie aérienne évoque leur lien avec le groupe religieux des gulenistes que Recep Tayyip Erdogan accuse d'être à l'origine de ce putsch manqué. Le prédicateur religieux Fethullah Gulen est en exil aux États-Unis. Cécile de Kervasdoué a joint Murat Erpouyan, enseignant à l'INALCO à Langso. Pour lui, c'était une répression prévue de longue date.
Ni aucun parti, ni aucun syndicat, ni aucune organisation de société civile n'a soutenu les putschistes. Ça, c'est très bien pour la démocratie. Mais aujourd'hui, il est difficile de dire que la démocratie s'en sort vainqueur de cette histoire-là.
Vous pensez quoi ? Vous pensez vraiment que toute la population turque, elle soutient Erdogan ?
Non, on ne peut pas dire ça. Mais la moitié de la population, quand même, soutient Erdogan. Mais il y a une autre moitié qui ne soutient pas. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est la polarisation de la population. On glisse vers des extrémités pro-Erdogan et ceux qui sont contre Erdogan. Donc quelqu'un a dit aussi, et autant de purges, c'est des listes de 60 000 personnes, comme vous le dites tout à l'heure, elle ne peut pas s'écrire en 24 heures. Hein. Donc ces listes-là étaient déjà a priori prêtes. Il y a un formatage d'État. Comment vous remplacez les 20 000 enseignants, les 120 généraux, les 2 000 les juges, etc. Il faut que le système fonctionne. Si vous retirez un peu trop de sang dans le corps, il y a forcément des dangers.
Murat Erpouyan, enseignant à l'INALCO à Langso, joint par Cécile de Kervasdoué. En Syrie, le régime de Bachar al-Assad intensifie ses frappes dans la région d'Alep au nord. 22 tués encore aujourd'hui. Hier, la cible était 4 hôpitaux, théoriquement protégés des frappes. Le droit considère cela comme un crime de guerre. Demain, à Genève, à l'ONU, Américains et Russes doivent se retrouver pour évoquer le retour à la table des négociations. Les tractations intersyriennes sont au point mort depuis le début de l'année. En France, après le drame du 14 juillet à Nice, l'exécutif promet pour cette semaine le rapport de la police des polices sur le dispositif de sécurité en place ce soir à la promenade des Anglais, car la polémique enfle avec cette policière municipale qui maintient ses accusations de pression, de modification de son rapport. On aurait voulu lui faire noter la présence de policiers nationaux quand il n'y en avait pas, selon elle, à l'entrée de la zone. Elle a déposé aujourd'hui un signalement au procureur de la République. Dans la classe politique, la droite niçoise accuse l'exécutif de vouloir travestir la vérité. Manuel Valls, le Premier ministre, leur répond dans une allusion au candidat conservateur américain. Il parle de trumpisation des esprits en critiquant ouvertement deux élus régionaux locaux, messieurs Estrosi et Ciotti. En racontant un peu n'importe quoi, Manuel Valls est dans la trumpisation des Français, lui répond ce soir Sébastien Huyghe, porte-parole Les Républicains. La nouvelle première ministre britannique, Theresa May, poursuit sa dure tâche de procéder au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Après le Brexit, donc, elle poursuit ses consultations avec l'ensemble des régions du Royaume-Uni aujourd'hui en déplacement en Irlande du Nord, où les habitants s'inquiètent d'un retour d'une frontière avec l'Irlande voisine. À Belfast, Theresa May s'est voulue rassurante. La correspondance britannique de Marie Vivant.
Personne ne veut revenir aux frontières du passé. Pas question pour la chef du gouvernement britannique de rétablir les contrôles douaniers entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, qui, elle, ne fait pas partie du Royaume-Uni. Elle restera donc membre de l'UE. La dirigeante conservatrice promet de trouver une solution pratique pour ne pas pénaliser la libre circulation des personnes et des marchandises entre les deux parties de l'île, dont les habitants bénéficient depuis les années 20. Theresa May a tenté d'apaiser, alors que certains politiques nord-irlandais, eux, craignent qu'un retour à une véritable frontière nuisent à l'accord de paix du Vendredi Saint. En 1998, cet accord a mis fin à près de 30 ans d'affrontements entre nationalistes catholiques et unionistes protestants. Le conflit avait fait plus de 3600 morts. Cette visite en Irlande du Nord était la dernière étape de Theresa May dans sa tournée d'union après l'Écosse et le Pays de Galles, dans un royaume divisé depuis le référendum du 23 juin. Car si le Royaume-Uni dans son ensemble s'est prononcé pour un retrait de l'UE, l'Irlande du Nord et l'Écosse ont voté en majorité en faveur du maintien. La première ministre rappelle régulièrement que les négociations avec l'Union européenne concernent l'ensemble du Royaume-Uni et qu'elle fera tout pour que tout le monde y trouve un avantage.
Et Theresa May rencontrera demain à Londres le Premier ministre d'Irlande, Enda Kenny. On ouvre une page économique avec ce rachat de taille, une transaction qui marque la fin d'une ère pour un géant, une société pionnière de l'Internet créée en 1994. Yahoo est avalé par l'opérateur télécom américain Verizon 22 ans plus tard. Yahoo, en perte de vitesse, n'a pas su négocier le basculement de l'utilisation d'Internet depuis un ordinateur via plutôt désormais des mobiles ou des tablettes. Sa valeur a plongé ces dernières années, Pierre-Yves Dugas.
Au plus haut de la bulle Internet, la société de Sunnyvale valait 125 milliards de dollars. En 2008, Microsoft a proposé de racheter Yahoo pour 48 milliards de dollars. Et ce matin, le premier opérateur de télécom des États-Unis, Verizon, avale Yahoo pour moins de 5 milliards. Les sites de mail et d'information de Yahoo attirent encore plus d'un milliard d'internautes tous les mois. Mais la société ne représente même plus 4% du marché américain de la publicité numérique, très largement dominé par Google et Facebook. Verizon, qui a déjà acquis AOL l'an dernier, veut développer la diffusion de contenu original pour vendre de la publicité sur les écrans de portable de ses 140 millions de clients.
Pierre-Yves Dugas à Washington. En France, un autre géant dans l'informatique, Intel, annonce la suppression de près de 80% de ses effectifs, 750 emplois sur 940. Le géant des processeurs, des puces informatiques en supprime 12 000 dans le monde entier, soit ici 11% de ses employés. De la casse donc à Sophia Antipolis, à Aix-en-Provence, à Toulouse. La France serait même, selon les syndicats de leur choix, le pays le plus lourdement pénalisé.
En effet, 97% de la partie recherche et développement du groupe en France va disparaître, selon des termes qui restent à négocier, puisqu'un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi, est en cours. Seuls les centres de Saclay, dédiés au calcul à haute performance, et celui de Bruyères-le-Châtel, dédié au Big Data, seront maintenus. Pour l'instant, les raisons données par le groupe sont assez succinctes. Le secteur du PC est en crise, et Intel, numéro 1 mondial du microprocesseur, dit vouloir se réorienter vers le cloud et les objets connectés. Il est vrai qu'il subit une rude concurrence, non seulement de l'autre géant des semi-conducteurs, AMD, mais aussi des géants de l'Internet qui cherchent à réduire leur dépendance aux géants de la micro-informatique. Tout comme Yahoo, dont on parlait à l'instant, Intel paye des erreurs stratégiques, notamment celle de n'avoir pas anticipé le développement des tablettes et des smartphones. Mais pourquoi toucher aussi durement la France alors que depuis 2009, Intel n'a cessé de faire croître ses effectifs français dédiés à la recherche et au développement, bénéficiant au passage du crédit impôt recherche, au point qu'il y a à peine un an, Intel recevait un trophée dans la catégorie investissement américain en France. Les syndicats estiment par conséquent que la direction américaine d'Intel n'a aucune idée de ce qui se passe dans les laboratoires français et a simplement produit, je cite, un tableau Excel. Il s'oppose en l'état à la fermeture des sites et rappelle qu'au moment même où les 12 000 suppressions d'emplois ont été annoncées, le groupe distribuait 1,2 milliard d'euros à ses actionnaires.
Anne-Laure Chouin, pour refermer cette édition à quelques jours des Jeux Olympiques de Rio, ce sera le 5 août. Retour sur cette décision surprenante du CIO, le Comité International Olympique. Les athlètes russes vont pouvoir participer aux Jeux. Et pourtant, ils sont largement accusés de dopage. À l'origine de ces révélations, c'est une athlète russe, elle-même, Yulia Stepanova. Mais le pire dans cette histoire, Maxime Fayol, c'est que cette lanceuse d'alerte ne pourra pas participer aux Jeux.
Et oui, c'est pourtant elle qui a dénoncé ce scandale à grande échelle. Un dopage organisé entre, d'une part, la Fédération russe d'athlétisme et, d'autre part, l'agence de contrôle antidopage avec l'aide des services secrets russes. Un système possiblement hérité des années 60 ou 70, explique l'agence mondiale antidopage. Alors en ce qui concerne Yulia Stepanova qui a fêté ses 30 ans, le dopage remonte au milieu des années 2000. C'est à ce moment que la jeune femme commence l'athlétisme sur 800 mètres. Elle prend de nombreux produits prescrits par ses entraîneurs, de l'EPO, des anabolisants, des hormones de croissance. Pour ne pas se faire repérer, les contrôleurs antidopage sont payés et Yulia Stepanova doit verser 5% de ses gains à la Fédération russe d'athlétisme.
Et pourquoi a-t-elle décidé de briser le silence ?
Et bien la bascule s'opère lorsqu'elle rencontre son mari, lui-même, ironie du sort, contrôleur antidopage. À deux, ils vont chercher à dénoncer le système à grande échelle en Russie, mais très vite, la pression augmente. Lui est renvoyé en 2011 après avoir constaté plusieurs dérives. Quant à Stepanova, elle est contrôlée positive en 2013 et suspendue pour 2 ans. Les époux vont alors se confier à une chaîne de télé allemande en décembre 2014. Ils doivent alors fuir la Russie. Ils sont en effet la cible des médias, d'autres athlètes mais aussi du pouvoir russe, eh bien leur en a pris car deux responsables de l'agence antidopage russe qui voulaient aussi faire des révélations ont tous les deux perdu la vie dans des circonstances plutôt troubles.
Direction les États-Unis pour Yulia Stepanova, mais pourquoi ne participera-t-elle pas au JO ?
Eh bien car le CIO explique que les athlètes russes doivent remplir plusieurs conditions. D'abord, prouver qu'ils ne sont pas dopés, mais aussi et surtout ne jamais avoir été contrôlés positifs, ce qui n'est pas le cas de Stepanova. La Fédération internationale d'athlétisme était pourtant favorable à ce qu'elle participe à ces Jeux Olympiques sous drapeau neutre pour avoir aidé à dévoiler le plus gros scandale de dopage dans le sport. Un vœu non exaucé par le CIO qui a tout de même, comble de l'hypocrisie, invité Yulia Stepanova à Rio avec son mari, mais en tant que spectateur, en reconnaissance de leur contribution à la lutte contre le dopage. Pas sûr toutefois que l'athlète russe fasse le déplacement.
Maxime Fayol, le temps de demain, mardi 26 juillet, Météo France nous promet un ciel variable sur une grande partie du pays, du soleil plus franc sur les bords de la Méditerranée. Demain matin, les températures de 12 à 17 degrés au nord, de 17 à 21 dans le sud. L'après-midi maximale prévue dans le sud-est de 33 degrés. Édition réalisée avec Jean-François Braun. Prochain journal, Laurent Vatrin à 22h.